Gilbert, aux amis, bonjour, bonjour, bonjour. Marie-André, Farley, bonjour. Claude, bonjour. Alors, nous voilà de retour. Nous sommes le mardi 14 juin de l'an 2022. Bonjour Guy, sois béni. Bonjour à mon père, à ma mère. Bien ensoleillé, puis il va pleuvoir. Alors profitez-en aujourd'hui. Maggie, bonjour, Dieu vous bénisse. Lucie, bonjour. Bien des choses. Lynn, si vous lui parlez. Janine, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je vais approcher le micro puisque je ne parle pas très fort. Ni hao yao yi, ye zuai ni. Est-ce qu'Evelyne va mieux, je suppose, il y a plus d'une semaine qui s'est passée? Tu la salues de ma part, et de même que Little Panda. Pour ceux qui se demandent quel est le son qu'il y a derrière moi, c'est Néma qui a fini de manger, c'est Gatri, et qui maintenant va boire de l'eau. Merci Janine. Bonjour Gilles. Bonjour à Joanne aussi, bien entendu. Bonjour Nathalie, que Dieu te bénisse, content de te savoir avec nous ce matin. Salutations à toute la petite famille. Hermana Flori, que Dios me la bendiga. Hermana, yo compré el aparato que usted me da la sugestión. De verdad, no sé si recibí su mensaje antes o después, pero he comprado la máquina. Vamos a tratarla en algunos días. Merci Nathalie. Oh, elle est là. Ah ok, non, non. Moi, j'avais pas vu tout le message. Donc on salue Evelyne et Emma. Encore 2 ou 3 minutes et on va commencer. Alors, ceux qui veulent ouvrir leur Bible cette semaine, c'est dans Ésaïe au chapitre 60. Louise, Michel, bonjour. Pascal, bonjour. Je suppose que vous êtes sur le chemin qui mène au travail. Soyez prudente. Commence bientôt, alors rappel météo ensoleillé aujourd'hui, mais la pluie se pointe pour quelques jours après. Gros week-end cette fin de semaine, fête des pères, jumelé pour Montréal et ça va compliquer bien des choses, jumelé au Grand Prix de Formule 1. Donc on vous rappelle que la rue. Le boulevard Saint-Laurent va être bloqué depuis vendredi jusqu'à dimanche. Donc le parking va être un peu compliqué autour de l'église, à moins, comme le disait le pasteur André, dimanche, que vous conduisiez une Lamborghini, une Ferrari ou ce genre de véhicule. Là, ils vont vous laisser passer, mais si vous ne passez, si vous ne conduisez qu'une Kia comme moi, il va falloir vous stationner un peu plus loin. Vous avez tout à fait raison, Pascal. J'ai entendu quelqu'un qui disait mieux vaut être patient sur la route que patient à l'hôpital. Jude Caridad, bonjour. Nancy, bonjour. Immacula, bonjour. Alors, on va débuter et après ça, on va faire la lecture. Je vous expliquerai aussi un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, bien que vous soyez tous au courant, plus ou moins. Alors, merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce de pouvoir se réunir, partager quelques instants le regard plongé dans ta parole afin d'être édifié par elle, d'être nourri, abreuvé, mais plus encore transformé par la puissance même qui se dégage de ta parole. Alors répands ta grâce sur nous, ouvre notre entendement, ouvre notre compréhension, et en toute chose que toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux, majestueux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à cette bénédiction matinale du mardi 14 juin. En fait, ça fait pratiquement une semaine qu'on ne s'est pas vu, puisque la dernière bénédiction matinale a eu lieu mardi dernier, après ces différents pépins techniques de configuration d'ordinateur, de configuration de réseau Internet, faisant fait que ça soit très compliqué. Donc, on s'en excuse, le pasteur André a eu les mêmes difficultés. Distinctement de moi, mais les mêmes difficultés. Et de surcroît à ça, c'était vraiment pas notre semaine. Le frère Léonel, avec les diffusions depuis l'église, avait aussi une série de problématiques diverses. Donc, on espère que ça va bien, on espère que vous m'entendez bien, on espère que l'image passe bien, et on espère que vous avez maintenu votre hygiène spirituelle en lisant la parole, bien qu'on avait un peu moins de rencontres tous ensemble. Alors encore une fois, bienvenue parmi nous ce matin. Je lis pour vous le verset qui va nous servir de réflexion cette semaine, en fait le passage. On va essentiellement étudier le verset 1 du chapitre 60 d'Ésaïe. Ésaïe 60, le verset 1, mais tout simplement pour voir le contexte un peu de ce passage, on va relire les trois ou quatre premiers versets. Donc, Ésaïe 60, le verset 1 nous dit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur les bras. Que Dieu bénisse sa parole. Relisons le verset 1, 2 ou 3 fois. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et là, on le lit tous à haute voix, même ceux qui sont à la maison. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Alors voici donc le verset que nous allons étudier durant toute cette semaine. Et aujourd'hui, on débute avec le premier verbe, le premier groupe nominal de ce verset. Lève-toi. Lève-toi. Le terme en hébreu, puisqu'on est dans l'Ancien Testament, maintenant vous êtes des érudits de la chose, vous savez que l'Ancien Testament a été écrit principalement en hébreu, le Nouveau Testament principalement en grec, avec quelques apparitions de l'araméen à quelques endroits, mais principalement en grec. Donc le terme qu'on étudie aujourd'hui, le terme se lever en hébreu, Kum, Q-U-M, Kum, se lever, Q-U-M, pour ceux qui prennent des notes. Et j'ai divisé les définitions qui vont avec ce verbe ou les synonymes qui vont avec se lever, dans leur sens bien sûr originel, en trois parties qui s'avéreront trois points différents. Mais avant qu'on entre dans la définition de ce que veut dire cum, pensons simplement à une chose. Si l'Éternel dit à Israël, et c'est à Israël qu'il parle à ce moment-là, puisqu'il est en train d'annoncer la restauration d'Israël, le retour des fugitifs, ou des captifs plutôt, vers Jérusalem et vers Israël, et le retour dans la grâce de Dieu, et le retour dans la bénédiction de Dieu, fort d'une victoire sur leurs ennemis et d'une libération que Dieu annonce à l'encontre de leurs ennemis. Et il dit, lève-toi. Lève-toi à Israël. Pourquoi se lever à ce moment-là? Ben, essentiellement parce que Israël a été dans l'oppression et dans l'abattement pendant environ 70 ans. C'est pendant environ cette période de temps que va durer donc la captivité, qu'on va nous parler aussi plus tard, notamment dans le livre de Daniel, où on voit Daniel avec ses quatre compagnons, mais ils n'étaient pas les seuls. Daniel et ses trois compagnons plutôt, mais ils n'étaient pas les seuls, à avoir été saisis par Babylone et avoir été amenés captifs au loin. En fait, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est qu'il y a eu un envahissement de deux peuples, l'Assyrie, donc le peuple assyrien, et de surcroît à cela, du peuple babylonien. Et l'un après l'autre vont prendre toutes les richesses du pays d'Israël, mais de surcroît à cela, ils vont prendre aussi les richesses en ressources humaines. Donc tous les jeunes nobles qui étaient bien formés, bien éduqués, vont être amenés jusque dans la capitale de la Syrie ou dans la capitale de la Babylonie et vont servir auprès du roi. On va les éduquer avec la sagesse qui pullulait notamment à Babylone à cette époque et on va leur interdire de retourner en Israël. Ceux qui vont retourner en Israël, 70 ans plus tard, ce sera donc avec l'époque de Néhémie et d'Esdras, où on va voir la reconstruction notamment de la muraille de Jérusalem, puis la reconstruction de la maison de l'Éternel. Donc je disais, ils sont dans l'abattement. Ils ont été pendant déjà plusieurs années sous l'affliction d'avoir des terres qui ont été brûlées, d'avoir leur ville porte-étendard, qui était la ville de l'Éternel, Jérusalem, qui aura été détruite, ses portes ont été brûlées, ses murailles ont été brisées, et ses plus grands cerveaux, ses plus nobles représentants ont été enlevés, amenés en captivité. Ceux qui restent sont dans un fort désarroi, ceux qui restent sont dans une pauvreté innommable, et ceux qui sont partis, mais sont partis avec le regret de devoir quitter parents, famille, position, sont partis avec le désir toujours brûlant dans leur cœur de revenir. Mais puisque les années ont passé, il y a un certain abattement qui est survenu sur le peuple. Et là, Dieu va leur dire, lève-toi à la nation d'Israël, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et il annonce même que la gloire de l'Éternel va se lever sur la nation d'Israël. Lève-toi, pourquoi se lever? Ben parce qu'il est en train de marquer une différence entre deux époques importantes. D'une époque d'abattement, on rentre dans une époque de construction, une époque de mise en action. Pendant toute la période où ils sont sous la juridiction de Babylone, sous la juridiction par la suite de la Syrie, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ne peuvent pas voir à l'épanouissement de la nation, ils ne peuvent pas voir à l'épanouissement financier de ses habitants ou de leurs habitants. Ils ne peuvent pas voir à former des rêves de conquête, des rêves d'émancipation. Ce qu'ils ont connu pendant deux ou trois générations, c'est tout simplement l'esclavage et tout simplement une mainmise, voire même une mainmise de tyran de la part des rois d'Assyrie et des rois de Babylone. Et Dieu veut marquer une fin de cette période d'abattement et le début d'autre chose. Et malheureusement, lorsque les transitions surviennent dans notre vie, très souvent, on se laisse prendre par par ces transitions. Regardez bien ce que Dieu va dire ici. Lève-toi, puis sois éclairé, car ta lumière arrive. Il n'est pas en train de dire, attends que la lumière arrive et là tu te lèveras. Il n'est pas en train de dire, attends que la délivrance arrive et là tu te lèveras. Non, il annonce qu'éventuellement, c'est déjà en cours, c'est déjà en route, la lumière va arriver, mais d'ici là, Israël doit déjà se tenir debout. À un moment donné, la servitude et l'abattement doivent s'arrêter. À un moment donné, et avant même que la gloire de Dieu soit répandue sur nous, il est important de mettre un terme à l'ère de l'abattement, à l'ère de la déprime, à l'ère de la dépression. et de dire à partir de maintenant, les choses changent. Bien entendu, Israël par elle-même ne pouvait pas se lever en disant, ben, à partir de maintenant, on va vaincre Babylone, on va renverser la Syrie, on va reprendre notre autonomie, voire notre indépendance. Non, ils peuvent le faire simplement parce que Dieu l'a arrêté dans son calendrier. Par contre, avant que le calendrier de Dieu ne se manifeste, il y a effectivement Dieu qui leur dit, lève-toi. La grande question pour toi et pour moi aujourd'hui, quelle est mon attitude? Quel est mon comportement face à l'abattement? Est-ce que face à l'abattement, je reste soumis à celui-ci? Est-ce que face à l'abattement, je capitule ou je résiste? Bon nombre de nos concitoyens vont céder le pas à l'abattement. Et c'est probablement une réaction assez légitime et assez humaine, dirons-nous. La différence entre nous et l'ensemble de nos concitoyens, c'est que nous avons Jésus. Jésus qui nous accorde sa paix, Jésus qui nous accorde sa douce présence, et Jésus qui nous dit que sa douce présence est avec nous à tous les jours jusqu'à la fin. Alors que je sois déjà dans ma partie victorieuse, que je sois déjà dans la partie de délivrance que Dieu m'annonce, ou que je n'y sois pas encore rendu, il y a un fait qui ne change pas. Nous avons Jésus avec nous. Je vous ai parlé de cette dame qu'on a transportée pendant une heure pour aller rejoindre une amie de Daphné qui fêtait son anniversaire à l'extérieur de Montréal et qui nous avait demandé de prendre sa grande-tante avec nous et de la transporter pour aller jusqu'à là-bas. Et j'ai parlé avec elle de ma maladie. Et elle me demandait si ma foi m'avait servi. Ça a été sa question qui était légitime. Est-ce que ma foi a été abattue pendant la maladie? Est-ce que ma foi a été mal en point pendant la maladie? Et je lui expliquais que la foi était surtout importante, oui, quand tout va bien, mais plus encore lorsque les choses ne vont pas bien. C'est là que la foi prend toute sa raison d'être et toute la capacité qu'elle peut avoir. Et en parlant avec elle, je lui expliquais donc que, effectivement, de savoir que Jésus était avec moi a fait en sorte que pendant toutes les visites que j'avais jusqu'à la fin de mon aventure en oncologie, à chaque fois que je me pointais, à chaque fois que je me pointe encore au département, ma réaction inévitable et ce que je mentionne toujours à Daphné, c'est « je n'ai jamais eu ce visage-là, je n'ai jamais été abattu comme ça ». Je n'ai jamais été terrorisé comme ça. J'ai toujours affiché un sourire, un calme, une paix qui ne paraissait pas ou qui ne paraît pas dans le visage des autres. Et pourquoi pouvait-on ou pouvais-je avoir ce visage plus calme, apaisé? C'est parce que je savais que Jésus était avec nous. Et c'est ça la grande différence. Donc le fait que la délivrance soit simplement annoncée, qu'elle ne soit pas encore là. Celui qui nous donne la délivrance, par contre, lui, il est déjà là. Jésus est déjà à tes côtés. Jésus est déjà à mes côtés avant même que la victoire soit palpable et que celle-ci soit visible. J'ai déjà Jésus à mes côtés. Alors ça devrait avoir une incidence sur moi. Et ça devrait me donner ce qui est nécessaire, ce que j'ai besoin pour être capable de me défaire de l'abattement et de proclamer la présence, la grâce et la bénédiction de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur va dire « lève-toi ». Lève-toi pourquoi? Parce que je suis déjà là. Lève-toi parce que ma présence est déjà là. La victoire est en route. Ma gloire se lève sur toi, la lumière au bout du tunnel arrive, mais moi, je suis déjà là. Alors, lève-toi. Et je crois que le Seigneur parle probablement à plusieurs d'entre nous aujourd'hui, de mettre un terme à l'abattement, de mettre un terme à l'esprit maussade, de mettre un terme au visage tristounet pour dire, mais j'ai toutes les raisons de me réjouir parce que Jésus m'a promis qu'il est avec moi à tous les jours jusqu'à la fin. Savoir la présence de Christ effective à nos côtés nous amène dans un chemin de victoire et dans un chemin d'autorité et dans un chemin où on se relève et on est restauré dans notre espoir, dans notre espérance et dans notre vigueur. Alors lève-toi. On marque une séparation entre l'abattement dans lequel j'étais et la victoire qui m'est annoncée. Et là, il va dire lève-toi, se lever, cum, comme on l'a dit tout à l'heure, et trois définitions, trois ensembles de synonymes. Le premier groupe de synonymes, cum, va vouloir dire se tenir debout ou s'afficher. Se tenir debout ou s'afficher. Ça va très bien avec ce que je viens d'expliquer. Quitter l'abattement, ça doit se voir. Afficher notre position en Christ se doit de se voir. Les gens disent, oui, la paix m'est revenue, mais je ne veux pas le montrer. Tout d'un coup que les choses iraient pire demain. Alors, parce qu'ils ont crainte que les choses s'aggravent de nouveau, alors ils ne veulent pas s'afficher parce que ça pourrait être une honte pour Christ. Aucunement. Dieu te demande que même dans la vallée sombre de la mort, tu puisses effectivement reconnaître la présence de Christ à tes côtés et par conséquent, ne pas craindre. Et il y a une grosse différence entre celui qui est sous l'emprise de la peur et de la terreur et celui qui est dans la paix. L'attitude, le visage, le comportement, l'humeur change totalement. Soyons honnêtes, quand vous voyez les périodes difficiles de la vie arriver, lorsque on vous annonce quelque chose, une potentielle difficulté en vue, vous commencez à être stressé. Nos visages, je vais m'inclure dedans, nos visages se crispent, nos sourcils se froncent, on commence à être plus introverti, on est dans nos réflexions, on cogite ceci, on cogite cela, on a moins envie de rire, on a moins envie de socialiser, on a moins envie de ceci, de cela. Ça se voit. Au même titre, lorsque les choses commencent à aller bien, ça s'entend. Ça se voit. Les gens te voient arriver au bureau lundi matin. Tu as eu une bénédiction durant le week-end. Lundi matin, tu n'es pas le même homme, tu n'es pas la même femme. Tu arrives avec une humeur détendue, avec une humeur paisible. Le grand malheur et la grande tristesse là-dedans, c'est que ça devrait être notre cas tous les jours. Simplement parce que Jésus est là. Alors oui, se lever veut dire aussi s'afficher, veut dire se tenir debout. Ça veut dire qu'à un moment donné, je dis, je ne reste plus accroupi, je ne reste plus dans l'abattement. Un peu le verset qu'on retrouve, et je crois que c'est dans Michée ou dans Nahum, vous saurez certainement me le confirmer. Le verset qui dit, « Mon ennemi, si je suis tombé, ne te réjouis pas, car je me relèverai. » Il est en train de dire, regarde, je ne resterai pas dans cette attitude d'abattu. Je ne resterai pas KO. Je disais un peu, j'ai fait de la boxe pendant un certain temps et je ne suis pas un merveilleux boxeur. Je ne suis pas un Mike Tyson avec une force de frappe terrible. Je ne suis pas non plus un Mayweather, pour ceux qui connaissent un peu les boxeurs, ou un peu plus anciens, les Sugar Ray Leonard, qui étaient de bons valseurs, ou un Mohamed Ali qui valsait à droite et à gauche, qui avait un style limpide, fluide et tout ça. Moi, je suis pas ce genre-là. Moi, je suis le genre du film que j'ai regardé le plus souvent de toute ma vie, Rocky. Moi, on me frappe, je tombe, je me relève et je me remets dans le centre du ring. Tu me refrappes, je tombe, je me relève et je suis encore dans ta figure. Et je vais finir le combat un peu comme un des boxeurs très populaires, ou peut-être le boxeur le plus populaire qu'on a connu au Canada, qui était Arturo Gatti. Tous les combats d'Arturo Gatti ont fini avec un visage tumifié, mais sous les rougeurs, les coupures, les enflures qu'il avait au visage, on reconnaissait toujours son sourire à la fin d'un combat. Je suis ce genre et nous devrions être ce genre de boxeur où on dit, regarde, peu importe ce qui va se passer, je me remets debout. Peu importe combien de fois tu me fais tomber, je me remets debout. Et je sais que lorsque le moment va venir, à la fin du combat, je serai malgré tout vainqueur. Alors en raison de la victoire qui nous est annoncée, en raison de la victoire qui nous est prophétisée par Christ lui-même, en raison de ce que nous connaissons de Dieu, nous ne restons pas dans l'abattement. On se lève et on s'affiche en disant, regarde, ma délivrance arrive, je reste debout. Qui a fait ça dans la parole de Dieu? Justement, les amis de Daniel, de qui on parlait tout à l'heure, Shadrach, Meshach et Abednego, lorsque le roi est venu leur dire, regardez, au son de la trompette, vous devrez vous prosterner devant ma statue, sinon quel Dieu pourra vous délivrer de ma main? Et les trois compagnons vont dire au roi, notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Mais même s'il ne le faisait pas, sache que nous ne nous agenouillerons pas devant ta statue. J'aime ce même si, sache que. Même si Dieu venait à ne pas nous délivrer, ou même si la délivrance de Dieu venait à prendre une autre tournure, ou même si la délivrance de Dieu venait à tarder à nos yeux humains, sache que nous ne plierons pas devant toi. Alors qu'est-ce qu'il disait? Nous resterons debout, nous nous afficherons comme étant chrétiens, nous nous afficherons comme ayant confiance dans la délivrance qui nous vient de Dieu. Lève-toi veut dire se tenir debout et s'afficher. Se tenir debout veut dire que je ne peux pas rester invisible. Les gens vont me voir. Mes concitoyens, mes frères et mes sœurs qui sont peut-être eux aussi dans l'abattement, vont me voir me lever. Je serai peut-être un encouragement pour eux qui attendent peut-être que quelqu'un ose se lever pour faire la même chose. Je serai aussi un témoignage d'endurance, un témoignage de résilience envers ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui me regardent. C'est ce qui s'est passé très régulièrement avec des infirmières, avec des médecins, avec des gens qui m'ont vu traverser toute mon aventure et qui se disaient, mais comment tu fais pour rester debout? C'était justement parce que je savais que Jésus était avec moi et qu'il serait avec moi tout au long du voyage. Alors, se lever, se tenir debout, s'afficher. La deuxième définition pour le terme se lever, cum, veut dire confirmer, prouver, attester, performer et accomplir. J'aime les deux derniers termes, performer et accomplir. C'est comme si je me lève parce que j'ai un mandat. Et je remplis ce mandat. Et je vais te donner un mandat que toi et moi nous avons, qui est expliqué je ne sais combien de fois dans Philippiens. En toute chose, réjouissez-vous toujours. Philippiens 4:4 va dire, je vous le dis, je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est pas une suggestion. C'est pas une proposition. C'est un mandat. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Voilà pourquoi même dans l'abattement, je peux me réjouir. Voilà pourquoi même dans la difficulté, je peux revenir dans cette attitude, dans cet esprit de joie. Pourquoi? parce que je sais qui est avec moi et je sais en qui j'ai cru et je sais que mon Rédempteur vit. Parce que je sais qui il est et je sais où il est. Donc, à mes côtés, dans tous les moments, même ceux qui sont difficiles, je peux donc effectivement me lever, prêter serment pour Christ et dire « Ma délivrance arrive » et agir comme quelqu'un qui croit vraiment à sa délivrance. C'est là où le terme « cum » qui veut dire aussi « confirmer »,« prouver », »,« attester ». Je veux dire, je ne me lève pas tout simplement en disant « Voilà, maintenant je vais bien ». Non, je me lève en disant « Oui, vraiment, je vais bien et maintenant je vais agir parce que je sais que je vais bien ». Vous voyez, à un moment donné, il y a l'histoire de Jacob. Jacob qui est attristé de la disparition de son fils Joseph. Et Jacob va rester dans le deuil pendant des années. Il va avoir Benjamin, qu'il va chérir parce que Benjamin devient le remplaçant de Joseph. Mais lorsque vous relisez les frères qui vont revenir après avoir retrouvé Joseph en Égypte, après que Joseph se soit révélé à eux comme en leur disant, regardez, Dieu avait tout planifié pour que je puisse vous secourir aujourd'hui. Allez chercher mon père. Dites-lui que je suis vivant. Allez lui annoncer la nouvelle. Les frères laissent Benjamin le plus jeune auprès de Joseph et quittent et retrouvent leur papa Jacob. Et là, ils doivent leur confesser, voici ce que nous avons fait. On t'a fait croire que Jacob était mort, mais on l'a vendu. Et on n'avait pas de nouvelles. Et voilà, on l'a retrouvé comme un des hauts placés, voire le second en autorité en Égypte après Pharaon. Ton fils, Joseph, est encore vivant. Et Jacob va dire qu'il va abandonner son deuil, s'en est assez. C'est à partir de ce moment-là, et vous relirez ce chapitre dans la Genèse, où les frères vont annoncer que Joseph est encore vivant et le papa Jacob va abandonner sa déprime. Il est donc important à un moment donné de se lever, d'abandonner nos vêtements de deuil, d'abandonner notre attitude de deuil. Est-ce que Dieu ne nous dit pas qu'il change notre deuil en allégresse? Donc à un moment donné, il est de notre responsabilité d'accepter la délivrance, d'accepter la consolation, d'accepter le rétablissement qui nous est annoncé. Je vous rappelle ici, Israël, on lui annonce à travers le prophète Ésaïe que sa délivrance arrive. On lui annonce que la lumière arrive. On lui annonce que la gloire arrive. Mais ils sont encore dans les ténèbres. Mais ils sont encore dans la noirceur. Ils sont encore dans l'opacité. Mais on lui annonce que ça arrive. Et pendant que ça arrive, alors que la délivrance est encore en chemin, on lui dit « Lève-toi ». Alors Israël doit se lever. Et Israël doit agir comme quelqu'un qui sait que la délivrance est en chemin. Donc on se défait de notre abattement, on se défait de notre peur et de notre terreur, et on prend position en disant « Je sais que mon Rédempteur vit, je sais que mon Libérateur vit. » Et la troisième définition pour cum, après se tenir debout, après confirmer, performer et accomplir ce qu'on doit accomplir en tant qu'hommes et femmes qui ont été délivrés et qui connaissent la délivrance de Dieu. La troisième définition pour cum se lever, c'est être planté, persister et demeurer. Je m'excuse, être planté, persister et demeurer. Savez-vous pourquoi? Parce que à chaque fois que je prends position pour Jésus, il y en a un qui est là pour essayer de me faire douter. À chaque fois que je proclame la victoire de Jésus, il y en a un qui est là pour me faire douter. Je ne sais pas si vous vous rappelez tous, mais lorsque mon aventure avec le cancer a commencé, on m'a annoncé que j'avais le cancer et la semaine d'après, on m'a annoncé que je n'avais plus le cancer. On m'a annoncé qu'on avait découvert le cancer dans la cheville, au pied. Mais les tests qui ont été poursuivis durant la semaine ont fait en sorte qu'une semaine plus tard, on me disait, c'était une fausse annonce, c'était pas vrai, y a pas de cancer. Et je suis monté sur la tribune pour annoncer cette nouvelle-là, en disant aux gens, voici, depuis quelque temps, on fait des investigations, vous savez que j'ai eu l'opération à la cheville, et j'étais aujourd'hui supposé vous annoncer que j'avais le cancer. Mais je vous annonce que les médecins ne trouvent plus de cancer. J'ai fait cette annonce-là. Là. Ça a été ma première annonce à l'église. Je ne leur ai pas annoncé tout d'abord que j'avais un cancer. J'ai gardé ça pour moi et pour les proches parce qu'on savait qu'on était encore en étude. Et quand les résultats sont arrivés et c'était il n'y a pas de cancer, je suis monté sur la tribune avec la joie, avec la fougue, avec la force de celui qui a eu un miracle dans sa vie. Et qui dit, il n'y a pas de cancer. Le lendemain même, j'avais un autre rendez-vous avec le médecin qui me disait, Florent, en fin de compte, le cancer est là. 24 heures plus tôt, j'avais dit, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu m'a guéri d'un cancer. 24 heures plus loin, on m'annonçait que tout était à effacer et qu'on recommençait l'histoire du cancer. Et je m'en voulais d'avoir été rapide dans cette annonce. Je m'en voulais d'avoir été emballé par cette annonce qui disait aux gens, regardez, je pensais vous dire que on allait passer par un moment difficile, je viens vous annoncer que Dieu nous a délivrés. Mais j'ai compris une chose, quelques heures après cette annonce, comme quoi le cancer était effectivement là et qu'il n'était pas parti. Je sentais que Dieu me disait, Florent, hier, tu as dit que j'étais bon parce que tu avais une délivrance. Tu as dit que j'étais bon et que j'étais puissant parce que, soi-disant, il n'y avait plus de cancer. Mais maintenant que le cancer est encore là, est-ce que je suis toujours aussi bon? Est-ce que je suis toujours aussi puissant? Est-ce que tu vas me glorifier autant que tu me glorifiais hier lorsque tu croyais que le cancer était parti? Et ça a été un enseignement profond pour moi. On a réglé une chose entre Dieu et moi. Seigneur, tu es bon en tout temps. Que je vois ta bonté se manifester ou qu'elle tarde. Que je vois ta délivrance se manifester ou qu'elle celle-ci tarde. Je sais que tu es bon, que tu es parfaitement bon, que tu es ineffablement bon et je me tiens debout pour annoncer que tu es bon. Alors même pendant le cancer, je disais, regardez, ne prenez pas ma place. Je ne donnerai ma place à personne. Pourquoi? Parce que je sais qui est avec moi. Et je sais que je suis exactement, exactement, exactement là où Dieu me veut. Et mieux vaut un jour dans sa présence que mille ailleurs. Quand la Bible nous dit, lève-toi, avant même que la délivrance ne survienne, c'est pour qu'on se tienne debout, qu'on s'affiche, pour qu'on confirme par notre attitude, par notre comportement, par notre prise d'action, qu'effectivement, nous croyons à la délivrance de Dieu et qu'on demeure planté, qu'on persiste, qu'on reste debout. Pourquoi? Parce qu'inévitablement, le diable va venir pour essayer de nous faire douter. Jésus avait dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Ils auraient pu se limiter à cette phrase-là. Qui disait, mais Jésus nous a dit de toute manière qu'on allait passer de l'autre bord. Il ne nous a pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête, mais il nous a dit qu'on irait de l'autre bord. Mais ils ont douté. Le Seigneur nous dit qu'il nous mène à bon port, qu'il nous mène de l'autre bord, qu'il est avec nous en tout temps jusqu'à la fin. Dans les bons comme dans les mauvais jours, Jésus est avec nous. Est-ce que je le crois? Si je le crois, ça doit se voir, ça doit s'entendre, ça doit se sentir. Et si je le crois, même lorsque le diable veut lancer ses doutes, attire l'arigot à mon égard, je reste ferme, je demeure dans ma position, c'est en Dieu que j'ai mis ma confiance. Prions. Seigneur, je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère, qui ce matin serait peut-être dans l'abattement, dans la crainte. Je prie, Seigneur, que il puisse revenir à la vérité de ta parole. Comme quoi tu es avec nous à tous les jours jusqu'à la fin. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous rejettes pas, tu ne nous délaisses pas, tu es avec nous en tout instant. Alors je prie, Seigneur, pour que celui ou celle qui serait abattu à un point où il serait ratatiné au sol, écrasé au sol, qu'il puisse et qu'elle puisse faire comme tu le demandais à Israël, de se lever avant même que la délivrance n'arrive, de se lever avant même qu'il ne voit l'ennemi être dispersé, afin de se tenir debout, de s'afficher pour toi, de confirmer par l'extérieur, de confirmer par leurs paroles, par leurs actions, par leur attitude, leur croyance profonde comme quoi Christ est avec eux, et plus encore, qu'ils perdurent dans cette croyance, dans cette foi qui s'affiche, dans cette foi qui s'entend, dans cette foi qui se voit et qui se sent. Alors Seigneur, je prie que le héros se lève pour toi dans les lieux de travail, dans les lieux d'études, dans les voisinages, dans les cliniques, dans les salons mortuaires peut-être même pour certains, dans les départements d'oncologie, voire même dans les départements de soins palliatifs. Que ce soit, Seigneur, des hommes, des femmes qui savent que Jésus est à leur côté, qui se lèvent et qui parlent. Nous t'avons prié dans le glorieux et précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se revoit demain pour la suite des choses, toujours dans Ésaïe au chapitre 60. Demain, ça va être la partie « Sois éclairé, car ta lumière arrive. » Sois éclairé, car ta lumière arrive. Alors d'ici là, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, mon ami qui m'écoute, qui s'est tourné vers Jésus, je t'invite, lève-toi. Ne sois pas abattu, lève-toi. Que Dieu te bénisse. Bonne journée à tous.